Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 16 janvier 2023. Dans quelques instants, je vais vous présenter le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné l'exécution odieuse d'un Palestinien par les forces israéliennes, un poste contrôle en Cisjordanie occupé. Réforme des retraites, des milliers de Français descendront dans la rue. Et au Mali, 4 militaires et un civil ont été tués dans une embuscade à Kouala. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné l'exécution odieuse d'un Palestinien par les forces israéliennes, un poste contrôle en Cisjordanie occupée. Dimanche 15 janvier, le ministère a déclaré dans un communiqué que le régime sioniste avait facilité pour les soldats de tuer n'importe quel Palestinien sans qu'il ne présente de danger pour les soldats du régime usurpateur. Plus tôt dans la journée, les forces israéliennes ont tué un homme de 45 ans près du village de Silwat, au nord de Ramallah. Les médias palestiniens ont identifié cet individu comme étant Ahmed Hassan Abdel Jalil Kahla. Israël a prétendu qu'il avait été tué alors qu'il tentait de saisir l'arme d'un soldat et qu'il résistait à une inspection. Des soldats ont forcé Kahla à sortir de son véhicule avant de lui tirer dessus à bout portant. Le fils de l'homme a également été aspergé de gaz poivré. Des groupes de défense des droits locaux et internationaux ont condamné l'usage excessif de la force par Israël et sa politique de tirer pour tuer contre les Palestiniens. Le ministère des Affaires étrangères a récemment appelé la Cour pénale internationale à achever ses enquêtes en cours sur les crimes israéliens contre les Palestiniens et à demander des comptes au régime d'occupation pour ces atrocités qui durent depuis des années. Les Nations Unies ont désigné 2022 comme l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie en 16 ans. Au moins 171 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie et dans l'est de Rots occupée. Le ministère yéménite de la Santé a mis en garde contre une catastrophe humaine qui menaçait la vie de plus de 5000 patients souffrant des maladies rénales à la suite du blocus saoudien et de la guerre qui dure depuis des années contre ce pays. Ali Jarraf, vice-ministre de la Santé du gouvernement de salut national, a fait cette remarque lors d'une conférence de presse dans la capitale yéménite Sanaa, alors qu'il tirait la sonnette d'alarme sur l'épuisement des stocks de médicaments de dialyse et de médicaments pour les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique.
Nous avons demandé aux Nations Unies et aux organisations de santé opérant au Yémen que nous devions fournir des stocks de médicaments suffisants pour les séances de dialyse en 2023 et nous comptons d'environ 500 000 séances de dialyse chaque année, a-t-il dit, déclarant qu'en dépit de nombreuses correspondances et réunions à cet égard, ils n'ont reçu aucune réponse. Soulignant que les centres de dialyse au Yémen sont sur le point d'arrêter, Jarraf a déclaré que le problème affecterait la vie de 5 000 patients souffrant d'insuffisance rénale qui ont besoin de séances de dialyse et de médicaments, affirmant qu'ils pourraient perdre la vie si ces solutions et médicaments n'étaient pas disponibles de toute urgence. Le vice-ministre de la Santé a mis l'accent sur l'importance d'ouvrir l'aéroport de Sanaa et le port d'Al-Hudaïda, car ils sont des débouchés vitaux pour les médicaments et la nourriture de millions de Yéménites dans les zones assiégées par l'agression de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. À cause du blocus, nous ne sommes pas en mesure d'importer des médicaments nécessaires pour sauver la vie des patients. Nous avons un besoin urgent d'ici 2 semaines de médicaments pour les séances de dialyse, a-t-il dit. Anisal Asbahi, porte-parole du ministère yéménite de la Santé, a tenu les Nations Unies responsables de sauver la vie des patients dialysés et de répondre aux besoins du peuple yéménite assiégé, soulignant la nécessité de rouvrir l'aéroport de Sanaa et le port d'Al-Udaïda. Le ministère de la Santé du Yémen a également annoncé que le nombre de patients atteints de cancer a augmenté de plus de 50% depuis le début de la guerre en 2015. Le secrétaire national du Parti communiste français, PCF, Fabien Roussel, a exhorté 1 million de Français à déferler dans la rue le 19 janvier, première journée de mobilisation syndicale et politique contre la réforme des retraites du président français Emmanuel Macron. Fabien Roussel a de nouveau proposé de soumettre la réforme des retraites à un référendum plutôt qu'un vote au Parlement. Nous voulons un vrai débat sur une réforme progressiste des retraites. Le peuple doit-il être pleinement associé, a-t-il dit. Emmanuel Macron a organisé un simulacre de concertation avec des partis politiques et des syndicats. Les changements apportés au projet initial n'ont enlevé rien à sa brutalité pour des millions de salariés. C'est Macron qui a fait le choix des armes, a dit Roussel. Dans son droit fil, la députée du parti La France Insoumise, Clémentine Autain, a estimé que le 19 janvier, il faut mettre le paquet. C'est à ce moment-là qu'on établit le rapport de force. Plus on part haut, plus évidemment la montée en puissance va être forte, a-t-elle insisté. Le patron de la Confédération générale du travail, CGT, Philippe Martinet, a aussi espéré que des millions de Français participeraient aux manifestations du 19 janvier. Il est à noter que le projet du gouvernement vise à reporter progressivement à 64 ans l'âge de départ à la retraite au lieu de 62 ans actuellement, tout en accélérant l'allongement de la durée de cotisation. Les principaux syndicats, unanimement opposés à cette réforme, se mobiliseront jeudi prochain pour une première journée de grève et de manifestation. L'ensemble de la gauche a appelé à rejoindre la contestation. En Tunisie, le nombre de candidats au second tour des élections législatives s'élève à 262, dont 34 femmes. Annoncé dimanche 15 janvier, l'instance supérieure indépendante pour les élections, ICE. Lors d'une conférence de presse au Palais des Congrès de Tunis, l'insistance électorale tunisienne a fait savoir que le scrutin relatif au second tour des législatives aurait lieu le 29 janvier courant. Quelques 131 circonscriptions sont concernées par le second tour des élections législatives prévues le 29 janvier courant, assuré Farouk Bouasker, président de l'ICE. D'après lui, la quasi-majorité des candidats, soit 49,2%, sont dans la catégorie de 46-60 ans et les jeunes, 30 à 45 ans, représentent un taux de 38,9%. Plus de 7,8 millions de Tunisiens sont inscrits sur le registre électoral du second tour, a-t-il ajouté. En prévision de ce second tour, l'ICE compte sur 632 agents pour assurer le contrôle et la supervision du déroulement de la campagne. Parmi ces ressources humaines déployées figurent notamment 524 agents de terrain et 108 agents administratifs. au moins 4 éléments des forces armées maliennes et un charretier civil de passage ont trouvé la mort dimanche et 3 autres porteurs d'uniformes ont été blessés dans une embuscade contre une mission de sécurisation de la route Kuala Mourdia dans la région de Nara au sud du pays, indiquait l'armée malienne sur sa page Facebook. 15 terroristes ont été neutralisés selon la même source. Pour le bilan, la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a annoncé 5 morts côté ami, dont un charretier civil de passage, 3 blessés et 2 véhicules détruits. Elle précise par ailleurs que des unités terrestres et l'aviation ont été vite engagées dans la zone pour des ratissages et des interventions aériennes, dont le bilan fait état de 2 véhicules traités et 15 morts côté terroristes. Pour rappel, le 10 janvier courant, 14 soldats ont été tués dans 2 attaques complexes aux multiples engins explosifs improvisés entre Dia et Dia Farabé en premier temps et entre Koumara et Massina en un deuxième temps, dans le centre du pays, selon un communiqué officiel de l'armée malienne. La même source avait annoncé que des renforts terrestres ont été déployés dans la zone, suivis de ratissages avec un bilan de 17 corps de terroristes abandonnés sur les lieux. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. La hausse des ventes du pétrole iranien. Les exportations de pétrole iranien ont atteint de nouveaux records au cours des 2 derniers mois de 2022 et démarrent en force vers 2023, malgré les sanctions américaines. Les exportations du pétrole iranien sont en théorie limitées depuis que l'ancien président américain Donald Trump a quitté en 2018 l'accord nucléaire de 2015 et a réimposé des sanctions pour limiter les revenus des exportations pétrolières de l'Iran. Les exportations ont cependant augmenté pendant le mandat de son successeur, Joe Biden, qui a cherché prétendument à relancer l'accord nucléaire et ont atteint leur plus haut niveau depuis 2019, selon certaines estimations. Et ce, malgré des vents contraires tels que le blocage des négociations sur le nucléaire iranien et la concurrence du brut russe à prix réduit. Une consultante en énergie SVB International a déclaré que les exportations de brut iranien en décembre étaient en moyenne de 1,137 millions de barils par jour, en once de 42 000 barils par rapport à novembre, ce qui indique le chiffre le plus élevé en 2022, selon SVB, sur la base des estimations données précédemment. La baisse de la demande chinoise et l'approvisionnement de la Russie en Chine ont constitué un défi majeur pour Téhéran et la majeure partie de son pétrole est toujours destinée à l'Extrême-Orient, surtout à la Chine, et ce d'autant plus que l'Iran aide le Venezuela à exporter son pétrole, a déclaré à Reuters Sarah Varchouri de SVB. Le consultant pétrologistique qui suit l'approvisionnement en pétrole a déclaré qu'il observait également une tendance à la hausse des exportations de brut iranien qui, selon lui, ont atteint en décembre leur plus haut niveau depuis mars 2019. Kepler, une société de renseignement sur les données, a estimé les exportations de brut iranien à 1,23 million de barils par jour en novembre, le plus haut depuis août 2022, est presque à égalité avec le taux en avril 2019 de 1,27 million de barils par jour, bien qu'elles aient glissé juste en dessous d'un million en décembre. En outre, l'année dernière, l'Iran a élargi son rôle au Venezuela, également sous sanctions américaines, en envoyant des cargaisons de pétrole léger pour le raffinage et des diluants pour produire des qualités de brut exportables, a rapporté Reuters. Selon un autre analyste mené par Vertexa, une société d'analyse de pétroliers, les importations chinoises de pétrole iranien en décembre ont atteint un nouveau record d'1,2 million de barils par jour, en once de 130% par rapport à l'année précédente. En réponse à la question de Reuters sur les achats records de pétrole iranien par la Chine, le service de presse du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la coopération légitime et raisonnable entre la Chine et l'Iran, dans le cadre juridique international, méritait le respect et la protection.
Bonjour à tous, bienvenue ici avec nous. Aujourd'hui, le sujet du jour concerne l'Iran et ses intérêts en Afrique et vice-versa, bien entendu. C'est la question internationale du jour. Nous vous proposons tout d'abord donc notre reportage et par la suite, nous ferons venir nos invités. Donc tout de suite, notre reportage.
Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères en charge des affaires de la diplomatie économique, Mahdi Safari, a fait allusion aux capacités économiques dans l'Est et l'Ouest du continent africain et a insisté sur un renforcement nécessaire de la présence de l'Iran dans le domaine du transport maritime en Afrique de l'Ouest. Ces propos ont été formulés lundi 9 janvier dans une interview exclusive à la télévision nationale d'Iran, et ce alors que le premier sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sera accueilli en février 2023 par l'Iran. En référence à la tenue prochaine d'une commission mixte entre l'Iran et les deux pays que sont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le responsable iranien a émis l'espoir de voir augmenter le volume des transactions commerciales avec la CEDEAO, dont la réalisation nécessitera une planification appropriée et ciblée. En tenant compte des ressources minérales et agricoles, de la population et du marché adapté à la vente des produits iraniens en Afrique de l'Ouest, l'établissement de relations économiques et d'investissements commerciaux dans cette région est une des nécessités de la diplomatie iranienne, a déclaré le vice-ministre iranien qui vient d'achever une tournée au Mali et en Guinée. Des échanges ont eu lieu avec des entreprises africaines dans le domaine automobile et la production de pièces détachées, de la production de médicaments de base, a-t-il fait savoir, avant de mentionner les opportunités économiques entre les entreprises iraniennes avec celles au Sénégal et dans d'autres pays voisins. Si l'Organisation iranienne de formation technique et professionnelle, une organisation qui propose la formation pour créer des compétences et la capacité d'obtenir une promotion professionnelle, organise des formations de courte durée de 6 mois à 1 an pour les ressortissants de ces pays, nous pouvons coopérer avec eux après le retour dans leur pays dans le domaine de la production des biens dont ils ont besoin dans le domaine de l'équipement médical, des matériaux de construction, des projets de construction, de la construction de ponts et des routes et de l'exploration des mines, a-t-il indiqué. Faisant référence à la tenue d'une vidéoconférence entre le ministère de la Santé et les ambassadeurs iraniens en Afrique, il a déclaré que l'Iran envisageait d'organiser des vidéoconférences dans les semaines à venir entre le ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce, le ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale, le ministère de la Santé et le ministère des Transports de l'Iran avec les ambassadeurs iraniens en Afrique. Monsieur Safari a ajouté qu'un certain nombre de bateaux de pêche iraniens sont désormais en route vers les pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest pour y pratiquer la pêche, ce qui peut constituer la base de la création d'emplois.
Alors nous revoilà sur plateau. Tout de suite donc, nous avons parlé avec nos invités. Monsieur Amrouni, donc expert en questions géopolitiques. Bonjour Monsieur Amrouni, ravi de vous avoir sur notre plateau.
Bonjour à vous et à votre invité, à tous nos...
Notre deuxième invité étant M. Luc Michel, géopoliticien à Bruxelles. Bonjour M. Luc Michel.
Bonjour à vous, à votre équipe et à mon collègue, évidemment. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, la question du jour étant l'Iran et son envie d'avoir plus de relations internationales d'un point de vue économique, géopolitique avec l'Afrique, ce n'est pas nouveau. On avait vu déjà pas mal M. Zarif à l'époque, ministre des Affaires étrangères, et maintenant M. Amir Abdullahian partir en Afrique, essayer de construire des relations durables avec, pour mot d'ordre, l'indépendance, avec pour mot d'ordre avoir une économie plus forte. L'Iran voudrait également mettre des usines. Par exemple, on a entendu parler des usines automobiles que l'Iran voudrait mettre directement sur le continent africain afin d'avoir une véritable production, sachant que l'Afrique n'a pour l'instant, en général, ce sont des voitures de seconde main qui viennent d'Europe, qui aboutissent en Afrique. Donc ce sont des choses positives pour l'Afrique, autant pour l'Afrique, autant pour l'Iran. Monsieur Luc Michel, que pensez-vous, pour commencer, que pensez-vous donc de ces relations d'expansion que souhaiterait l'Iran, mais d'un point de vue gagnant-gagnant, bien entendu?
Écoutez, c'est une relation fondamentale. Les Occidentaux sont obsédés par la Russie et par les questions sécuritaires en Afrique, mais ils oublient de parler des questions économiques avec l'Iran. Moi, j'insiste depuis 2018 sur l'assistance que l'Iran apporte au panafricanisme et à la pénétration du bloc de l'Est en Afrique. L'Iran joue un rôle fondamental dans trois domaines. Le domaine sécuritaire, évidemment, mais le problème économique et le problème des mécanismes anti-sanctions. Grâce à l'Iran, des pays comme le Sénégal, comme la Guinée-Conakry, comme bien entendu le Burkina Faso, sont en train de se détourner de l'Occident. C'est particulièrement spectaculaire du côté du Sénégal, puisque en 2014, il arrive au pouvoir au bout d'un processus qui est porté à bout par la France et les États-Unis, et qu'aujourd'hui il est tourné vers le Sénégal. Notamment grâce à ce qu'on appelle l'OPEP du gaz, dont l'Iran est un député avec lui.
Merci, M. Luc Michel. M. Amrouni, est-ce que vous êtes d'accord avec l'expertise de M. Luc Michel, mais aussi sur le fait que ce n'est pas nouveau, hein, l'Iran ne s'intéresse pas à l'Afrique depuis quelques années seulement, ça fait depuis longtemps. Il suffit de se rappeler de la relation entre l'Algérie et l'Iran, hein, qui n'est pas nouvelle, également la relation avec le Mali, qui n'est pas nouvelle non plus, vu qu'en matière d'expertise, comme le dit M. Luc Michel, en matière d'expertise de sécurité, bien entendu, le Mali, on a eu besoin de cette expertise, vu l'expérience de l'Iran avec la Syrie et l'Irak. Que pensez-vous et quelles sont les choses qui pourraient être également intéressantes pour l'Iran et l'Afrique?
Vous savez que la relation entre la République islamique d'Iran et les pays africains ne date pas d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit. Ça date depuis le début de la révolution islamique. On se rappelle que le premier président qui a visité donc, l'Afrique, c'était l'imam Ali Khamenei, le guide suprême aujourd'hui, lorsqu'il était président en 1986. Il a fait une visite au Mozambique et en Angola. Aussi, le président Rafsanjani, il est parti en 1991-1996. Le président Khatami, il est parti en 2005 aussi. Donc, il avait de l'intérêt, l'Iran avait de l'intérêt de nouer des relations économiques, politiques avec les pays africains. Mais, malheureusement, à l'intérieur même de la diplomatie iranienne, l'Afrique, c'était un projet secondaire de la diplomatie iranienne. Elle n'était pas prioritaire. La priorité, c'était l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui, le développement avec les pays africains, c'est une nécessité diplomatique, géopolitique et économique pour l'Iran. Pourquoi je dis ça? Par exemple, les échanges entre l'Iran et l'Afrique, c'est-à-dire les échanges entre l'Afrique et l'Iran, ne représentent même pas 0,6% de tous les échanges de l'Afrique. Les exportations iraniennes de l'Afrique ne dépassent pas les 700 millions de dollars. Donc, il y a toute une importance stratégique de développer économiquement, politiquement, géopolitiquement une politique réelle avec l'Afrique. Parce qu'on a l'impression, à l'intérieur même de la diplomatie iranienne, c'est comme si l'Afrique ne représente pas de l'intérêt stratégique. Il faut que l'Afrique représente pour les Iraniens, pour la diplomatie iranienne, pour la République islamique iranienne, une priorité. C'est pour cette raison.
Est-ce qu'on peut pas dire que l'Iran était, excusez-moi de vous interrompre, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Iran n'était pas prêt? Parce que quand on regarde au niveau industriel, l'Iran n'était pas l'industrie d'aujourd'hui, ne produisait pas autant de médicaments, ne produisait pas leurs propres voitures, puisque c'était sous logo français en particulier, je veux dire. Il y a beaucoup de choses que, par exemple, rien que quand on parle des machines à dialyse, l'Iran n'était pas, ne produisait pas. Maintenant, ils proposent même des formations pour pouvoir ouvrir des instituts au niveau international pour suivre les malades sous dialyse. Ce sont des choses qui n'existaient pas il y a, comme vous l'avez dit, en 86 ou même par la suite. Est-ce que c'est pas une histoire également du bon moment pour que ce soit réellement intéressant pour les deux continents, enfin, pour les deux, le continent et le pays?
Bien sûr. Il y a aussi les effets de l'embargo américain, les effets des sanctions internationales contre l'Iran. Aussi, il y a l'adversité entre la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui ont empêché une relation saine entre l'Afrique et l'Iran. Et surtout, ces échanges économiques de la santé, au niveau transport, au niveau maritime, au niveau de la formation et le transfert technologique. Aujourd'hui, les pays africains, l'élite africaine, elle est plus indépendante, elle est plus dynamique et elle est plus ouverte. Donc c'est très important le timing d'aujourd'hui pour l'Iran de développer la vision stratégique. Ce n'est pas simplement des opportunités économiques. Il faut avoir une vision stratégique pour la diplomatie iranienne, la diplomatie économique, pour développer des segments dans l'industrie dont les Africains ont besoin, dans l'agriculture, dans l'environnement et dans la santé. Donc, il y a beaucoup d'éléments en faveur de la République islamique d'Iran. Il faut avoir le courage d'aller vers ces pays-là, vers l'Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique de l'Est. Je sais que l'Iran a des très, très bonnes relations avec l'Afrique du Sud. Il faut développer avec l'Algérie. C'est vrai qu'avec l'Algérie, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. J'espère que les relations diplomatiques reviennent entre la République islamique d'Iran et le Maroc, parce que c'est très important comme pays. Et donc, il faut avoir une vision globale, une stratégie réelle de la part de la République islamique iranienne vis-à-vis des pays africains.
Mieux connaître le continent aussi. Monsieur Luc Michel, Monsieur Amrouni a parlé de l'Arabie saoudite comme influence qui empêchait éventuellement l'Iran de réellement nouer avec le continent africain. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que l'Arabie saoudite a toujours représenté un peu au niveau international, je veux dire, les valeurs musulmanes. Il s'est donné un peu comme l'ambassadeur de l'islam auprès des pays africains. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expertise ? Que c'est un peu l'Arabie saoudite qui ont fait peur à l'Afrique d'aller vers l'Iran?
Non, je crois simplement que l'Iran n'était pas prêt avant l'année 2015-2018 et les Africains n'étaient pas prêts. Jusqu'en 2015-2018, l'Afrique, c'est un butin aux mains des Occidentaux. C'est un sujet, pas un acteur de la nation politique. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'émanciper et elle est en train d'être libérée par la guerre hybride qui est menée par la Russie et l'Iran. Jusque-là...
Vous parlez, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Luc Michel, vous parlez notamment des banques, parce que bien forcément les accords commerciaux se font par le biais des banques et les sanctions empêchaient finalement l'Afrique de pouvoir atteindre l'Iran. Ou bien c'était de manière extrêmement indirecte avec deux ou trois banques en jeu. C'est de ça dont vous parlez?
Oui, les temps n'étaient pas venus. L'Afrique était un sujet des Occidentaux. C'était l'époque des printemps arabes, des printemps africains, des expéditions militaires occidentales comme en... Aujourd'hui, c'est terminé. L'Afrique, elle suit un chemin de libération. De plus en plus de pays africains tournent le bloc polonais. Le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso, la Guinée, par exemple. C'est de là qu'il faut revenir. Et il y a surtout les évolutions dans l'Iran même, que jusque-là, la géopolitique, elle était à dominante religieuse. Aujourd'hui, elle est à dominante purement géopolitique. Aujourd'hui, l'Iran mène des alliances sont louées autour du développement géopolitique du pays. C'est cela qu'il faut retenir. Il y a eu surtout la crise de l'Ukraine, puisque le développement des sanctions contre la Russie, en parallèle avec les sanctions contre l'Iran, les sanctions de la Fédération contre la Russie. Tout cela a fait qu'un bloc de pays a des intérêts à mener les mécanismes iraniens en disant
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Amrouni, alors oui, Monsieur Luc Michel a parlé du fait que l'Iran n'était pas prêt, que les continents africains n'étaient pas prêts, que le fait que la Russie maintenant est un véritable soutien, un partenaire économique et géopolitique avec l'Iran. J'ai envie de mentionner la banque numéro 2 russe qui a décidé d'ouvrir ses comptes aux Iraniens. C'est aussi un enjeu important parce que forcément cette banque est également en Afrique, ce qui va permettre, parce que j'expliquais tout à l'heure qu'il y avait un blocage au niveau syrien de l'argent. Si on voulait tout simplement faire parvenir l'argent d'un continent à l'Iran ou vice-versa, c'était extrêmement compliqué. Il fallait faire jouer le rôle de plusieurs banques. Là, avec l'action directe avec les banques russes, avec le continent africain, forcément, les choses sont bien meilleures et vont permettre réellement des investissements de part et d'autre.
Vous savez que les Iraniens, depuis 40 ans, ils sont maintenant experts pour se détourner des sanctions et des embargos. Ils sont plus experts que les Russes. Peut-être que les Russes, ils vont apprendre des choses avec les Iraniens. Ce n'est pas l'inverse. Donc, les Iraniens n'ont pas de problème pour trouver des circuits et des zones grises pour se détourner des sanctions et de l'embargo américain. Il n'y a pas que les Russes. Il y a aussi des bonnes relations entre l'Iran et la Turquie. Et il faut trouver les moyens avec les pays musulmans, comme je viens de nommer la Turquie, mais il y en a d'autres puissances, une moyenne puissance musulmane en Afrique et en Asie. Avec l'accord des Iraniens, on peut développer, parce que le savoir-faire iranien est reconnu mondialement dans beaucoup de secteurs.
D'un point de vue scientifique, ingénierie scientifique, médicale, c'est vrai que les laboratoires en Iran ont toujours été respectés, même par l'Institut de Paris, l'Institut de Pasteur à Paris. Eux-mêmes reconnaissent le niveau scientifique des scientifiques iraniens.
Et en plus, il y a un accueil favorable pour l'Iran en Afrique. C'est toute la différence, par exemple, entre les Africains et le monde arabe.
Les Africains et la Russie, ou les Africains avec les Chinois, parce que c'est vrai qu'il y a toujours, on peut voir sur les réseaux sociaux, les Africains un peu froids, un peu frétilleux au niveau même de la Chine, en disant oui, mais c'est pas un vrai partenaire, pour l'instant on n'a que lui. Mais c'est vrai que l'Iran, du fait qu'ils sont opposés à l'impérialisme, tous les continents africains sans exception ont connu la colonisation. C'est vrai que c'est forcément un langage qui plaît aux Africains.
Tout à fait, c'est un point très très fort, parce que l'Iran, la République islamique, la révolution islamique iranienne, elle a beaucoup d'influence en Afrique. Elle a influencé les pays africains pour s'émanciper, pour se révolter, pour trouver leur dignité, leur dépendance. Et il y a aussi l'islam soufi en Afrique, qui est très, très proche de l'islam chiite. Donc il y a beaucoup beaucoup de points positifs. Et il faut développer ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut développer une vision stratégique à l'intérieur même de la diplomatie iranienne. C'est ce qui manque. La volonté africaine est liée. Aujourd'hui, les pays africains veulent développer des relations stratégiques avec l'Iran. Donc comment les Iraniens vont développer cette relation?
Là, il y a un point qui a été dit par le... Excusez-moi, de vous interrompre, ça va permettre aux auditeurs d'avoir tous les points. Il y a un point que le ministère des Affaires étrangères a expliqué, c'est de faire venir des étudiants africains pendant 6 mois, des courtes périodes, histoire de faire des relations ici également en Iran, et de pouvoir parfaire leurs études également, et de faire donc ces connexions universitaires. Vous croyez que c'est une bonne introduction pour ce genre de plan?
Bien sûr, déjà il y a beaucoup d'étudiants africains à Qom et à Mashhad, donc il y a énormément d'étudiants africains, et il faut avoir plus d'étudiants africains sur les secteurs de l'industrie, de la chimie, et même sur le secteur nucléaire, physique nucléaire. Donc c'est très important, et il y a toute une richesse en Afrique, il y a 950 millions, et dans 10, 15, 20 ans, il y aura à peu près 1 milliard et 200 millions d'habitants en Afrique. L'avenir du monde, il se trouve en Afrique. Donc, il faut que les Iraniens trouvent les moyens de mettre en place une stratégie économique, politique, géopolitique, surtout dans les transports aussi, dans la formation, dans le pétrole et le gaz. Donc, il y a un avenir intéressant pour l'économie iranienne, parce que le problème de l'Iran aujourd'hui, il faut qu'elle exporte, il faut qu'elle importe. Donc, qu'est-ce qu'elle va exporter, qu'est-ce qu'elle va importer? Les pays européens, dont l'Iran aussi a des bonnes relations, on voit très bien que l'influence américaine, elle est très puissante. Donc, l'Iran, elle va vers l'Asie, vers la Chine, vers la Russie, mais il faut qu'elle aille vers l'Inde et vers l'Afrique. Donc, l'Afrique est un point très important pour l'avenir de l'Iran.
Merci beaucoup, Monsieur Amrouni. Alors, pour conclure, nous allons demander à Monsieur Luc Michel. Alors, je reviens sur les points qui ont été indiqués. La stratégie économique que doit mettre en place l'Iran, sachant que l'Afrique est déjà très ouverte à la pensée iranienne et au fait d'être en relation diplomatique et économique avec l'Iran. L'Iran a beaucoup à offrir au niveau industriel, au niveau éducationnel, au niveau de même médical. Vous, Monsieur Luc Michel, un point rapide de conclusion concernant donc cette envie et cette déclaration officielle du gouvernement iranien de vraiment d'expandre en fait leur politique au niveau de l'Afrique.
Écoutez, l'Iran, elle apporte un savoir-faire et une expérience qui est saluée par tout le monde. Et je suis d'accord avec mon collègue pour dire que c'est l'Iran qui va enseigner la Russie et pas le contraire. Par contre, je ne suis pas d'accord quand il dit qu'il n'y a pas de stratégie, puisque depuis 2018, l'ancien commandant de la marine iranienne, l'amiral Kanzani, il a développé justement une stratégie d'implantation de l'Iran en Afrique. C'est ce seul-là que vous bénéficiez actuellement et dont vous tirez les bénéfices. Aujourd'hui.
Oui, vous parlez notamment, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Luc Michel, vous parlez notamment des aides qui ont été apportées au niveau du piratage, parce qu'il faut connaître que, si je ne me trompe pas, surtout les côtes est de l'Afrique subissaient énormément de piratage et malgré des présences internationales de l'armée, il n'y avait rien qui était fait et l'Iran est venu apporter son aide. Vous parlez de ce point-là ?
Je parle des points de vue sécuritaires, c'est-à-dire l'implantation de la marine iranienne dans l'entrée de l'océan Indien dans le golfe de Guinée et dans l'entrée de l'océan Atlantique en partenariat avec la marine russe. Ça a tout à fait désoccidentalisé le golfe de Guinée. Mais je parle aussi de la stratégie économique qui est apportée, des mécanismes, notamment le corridor anti-sanctions Dakar-Caracas-Téhéran qui a puissamment aidé au désenclavement de l'Afrique. C'est tout cela qui est en route actuellement et pour lequel l'Iran continue sur sa lancée.
Est-ce qu'on avait parlé du côté éducationnel, que l'Iran souhaiterait que plus d'universitaires africains viennent en Iran, même si c'est pour des courtes durées? Est-ce que vous pensez que les Africains vont être intéressés de venir ici dans les universités iraniennes?
Oui, bien entendu, il y a une volonté d'éducation en Afrique, et ces éducations, elles sont tournées vers la Russie. Mais maintenant, elles envisagent de se tourner vers l'Iran. L'Iran, c'est un pays développé, c'est une économie puissante. C'est un pays qu'on n'a pas su écraser pendant 40 ans par les sanctions. Et les Africains sont conscients de ce potentiel iranien.
Merci, Monsieur Luc Michel. Merci, Monsieur Amrouni. C'est toujours un plaisir d'avoir votre expertise sur nos plateaux, sachant que vous le faites sur votre temps libre. Et on vous remercie toujours, Prestivi, de pouvoir avoir une vraie expertise qui est selon votre vision du monde. Si ça correspond à Prestivi, c'est bien. Mais à chaque fois que vous veniez, vous partagez toujours votre opinion et on vous en remercie. Que ce soit Monsieur Luc Michel, qui depuis longtemps est notre expert, et également Monsieur Amrouni, qui est également depuis un certain temps expert pour Prestivi français. Moi, c'est ici en fait que j'ai envie de vous dire au revoir. Mais tout d'abord, on revient donc sur cette partie économique de l'Iran. Maintenant que l'Iran est devenu beaucoup plus fort au niveau des sanctions, on peut y faire face. Qu'on sait que les négociations ne vont pas aboutir à Vienne, il est évident que l'Iran se concentre sur des choses qui vont vraiment apporter des résultats. Les Iraniens l'attendent. Ils ont attendu que les accords de Vienne se passent. Ça ne s'est pas fait. Maintenant, ils regardent ailleurs. C'est l'heure pour l'Inde. On a vu pas mal d'expansion au niveau de l'Inde, des accords, des bureaux de réflexion. Et l'Afrique, ce n'est pas nouveau. Et le gouvernement a officiellement indiqué, nous avons des dates. Février, des réunions vont être faites. Des accords vont être certainement peut-être passés. À suivre. C'est un sujet donc à suivre dans les prochains mois. Moi, d'ici à l'heure actuelle, je vais vous dire au revoir. Je vous propose d'autres débats. N'hésitez pas à aller sur notre site ainsi que sur notre plateforme comme VK ou Telegram où nous sommes présents. Je vous remercie d'être nos auditeurs. À vous de vous faire vos opinions à partir des différents médias. Je vous remercie et je vous dis au revoir à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir. L'Iran.
et son septième art. L'apparition de la dynastie Safavide constitue l'un des événements importants de l'histoire de l'Iran. Aucun ouvrage important sur la musique ne vit le jour à partir du XIVe siècle et la musique nationale iranienne ne cessa de décliner. À cette époque, l'industrie et le commerce se développèrent en Iran. Et grâce à la compétence et à l'habileté de quelques-uns des rois de cette dynastie, tels qu'Abbas le Grand et Abbas le Second, le pays devint sûr et prospère. Cette situation permit un léger renouveau dans la plupart des domaines artistiques. Les œuvres architecturales, picturales, calligraphiques, etc. de cette période témoignent de l'attention que portaient les sultans safavides aux beaux-arts. Au contraire, la poésie, les belles lettres et la musique ne se développèrent guère et connurent même un certain déclin. Le long règne des rois safavides ne vit ni poète de talent, ni grand musicien. Les rois safavides n'encourageaient pas les poètes et les musiciens. Au contraire, ils s'opposaient même parfois à eux. La chute de la musique, en particulier scientifique, amorcée vers la fin du XIIIe siècle, s'accéléra dès lors. Les maîtres de la fin de l'époque timouride et de la cour de Hérat, encore vivants à l'époque safavide, décédèrent sans véritable héritier artistique. Avec leur mort et la politique religieuse du roi Ismaïl et du roi Tamerlan, et le comportement de celui-ci à l'égard des artistes, la musique connut un déclin qui dura plus de 50 ans. Bien que Shah Abbas lui-même ait été artiste et qu'il ait prêté beaucoup d'attention à la musique, ce qui donna jour aux activités de beaucoup de musiciens célèbres, cela ne dura pas beaucoup et après ce roi, cet art tomba en décadence. Et à la fin de l'époque safavide, cet art périclita complètement. Parmi les rois safavides, seul Shah Abbas s'intéressa à la musique et protégea les musiciens. Dans toutes ces cérémonies, la musique, le chant et la danse étaient présents. Et il prenait plaisir à les écouter et à regarder la danse. Ce roi portait attention à l'art et à l'industrie. Sous son règne, la ville d'Ispahan devint le grand foyer des artistes et la plus grande représentante de l'art et de l'industrie iranien. Shah Abbas respectait et chérissait tous les artistes de tous les domaines. Lui-même était artiste et composait des poèmes, peignait, jouait de la musique, composait des airs et connaissait les techniques musicales. À l'époque du Shah Abbas, de grands musiciens et chanteurs et des exécutants habiles apparurent, dont on peut trouver les noms de certains dans le deuxième volume du livre « La vie de Shah Abbas » de Nasrullah Falsafi. À cette époque, Ispahan possédait de nombreux cafés, grands et luxueux, souvent situés autour de la place Nakhch-e-Jahan. Ces cafés étaient les lieux de rencontre des artistes et des hommes de goût. Outre la musique, la danse et les différents jeux, dans les cafés, l'on faisait la lecture du Shahnameh et beaucoup de gens s'y rendaient pour écouter cette récitation. La lecture du Shahnameh, Shahnameh Khani, n'était pas facile et la plupart des narrateurs, Shahnameh Khan, étaient eux-mêmes poètes et hommes de lettres possédant de belles voix. Le roi Abbas, s'intéressant également beaucoup à la lecture du Shahnameh, il s'était entouré de poètes comme Abdurrazzaq Ghazvini et Molla Bihodi Gonabadi, qui lui faisaient la lecture de ce livre. L'époque de Shah Abbas a une importance extrême dans l'histoire de la musique iranienne. Cet art, qui faute d'un grand mécène et protecteur avait décliné, prospéra de nouveau sous les auspices de ce roi artiste. l'un des instruments qui aidèrent à préserver l'existence de la musique nationale iranienne est la timbale, nagare. Le jeu de la timbale iranienne fut une tradition commune jusqu'aux dernières années de l'époque Qajar, mais perdit au fur et à mesure son importance à l'époque du roi Nasser ed-Din après l'importation de la musique militaire occidentale. Le nagare a une vieille histoire. On appelait nagare tout un groupe d'instruments différents, tels que la timbale, le tambour, la trompette, la grosse caisse, kous, la trompe, rana, le hautbois, sorna, la flûte, le tambour bifas, dehol, le tambourin, daf, etc. Également les sons qu'ils produisaient. Sous le règne de Nader Shah, l'ignorance de ce roi militaire porta un coup final à cet art. L'invasion afghane, la conquête d'Ispahan et la chute de la dynastie Safavide fixèrent les beaux-arts dans leur apogée et ruinèrent beaucoup d'œuvres. Sur ordre de Mahmoud, on dépouilla Ispahan et de nombreuses œuvres splendides de l'époque Safavide furent détruites. Les pillards afghans conquirent également la ville de Shiraz et assassinèrent beaucoup de gens. L'apparition de Nader et les combats entre les prétendants au trône détériorèrent encore la situation, jusqu'à ce que Nader vainquît ses adversaires et s'empara du trône. Ce conquérant ne s'intéressait guère à la science, l'art et la littérature. Après son meurtre, la situation de l'Iran se troubla de plus en plus, et l'anarchie et le désordre envahirent le pays. L'avènement de Karim Khan le Zand mit fin à ce désordre. Celui-ci tenta d'améliorer la situation. Mais malgré tous ses efforts, cette période ne connut guère d'artistes importants, aussi chevronnés que les maîtres anciens. Et les apprentis n'atteignirent jamais la même habileté que leurs maîtres. Après le meurtre d'Ara Muhammad Khan, Fath Ali Shah devint roi en 1797. Il invita quelques-uns des musiciens célèbres de l'époque Zand, chanteurs, interprètes et maîtres, à sa cour. La musique nationale iranienne fut transmise à la cour de Fath Ali Shah par les mêmes maîtres, chanteurs et musiciens, et prospéra. De même, les poètes de l'époque Zand, après avoir été invités à la cour Qajar, propagèrent leur méthode poétique et se présentèrent comme les précurseurs des poètes de l'époque Qajar. En 1847, l'école de Darul Funun fut fondée par Mirza Tarikhan Amir Kabir. Des leçons de musique militaire occidentale furent programmées pour la première fois dans le département militaire de cette école par le général français Alfred Jean-Baptiste Lemaire. Cette musique nouvelle remplaça la musique ancienne des Nagare Khane. Cette école initiait les élèves aux règles et aux principes théoriques et pratiques de la musique occidentale. En 1873, le premier chant national et la marche du couronnement de Nasser ed-Din Shah furent composés par le maire et joués devant le roi. Le maire mourut à Téhéran en 1909 et fut remplacé à son poste par Ghulam Reza Khan Salar. Le domaine de la musique militaire joua un rôle important en Iran. En effet, l'initiation des musiciens iraniens à la musique occidentale se fit au moyen de la musique militaire et les étudiants de cette école firent plus tard partie des grandes figures de la musique iranienne. Le mot « musique » entra alors en persan. Reza Shah Pahlavi apporta des changements à l'organisation de la musique et remplaça l'administration générale de la musique des armées par l'administration générale de la musique. De nombreux chants et marches militaires furent composés sous son règne. C'est également sous son règne que l'interprétation de concerts publics et l'apparition de chanteuses eut lieu. Le chant fut inscrit au programme des écoles sur l'instigation d'Ali Nari Vaziri, qui fonda en 1923 l'École supérieure de musique. Dans cette école, on enseignait la musique iranienne avec une méthode nouvelle, basée sur les règles et les principes de la musique européenne. Il établit le premier grand orchestre composé d'instruments iraniens et occidentaux et donnant des concerts, enregistra des disques. L'époque de Reza Shah fut l'âge où les institutions gouvernementales de musique furent établies. De même, la deuxième période de l'ère Pahlavi fut l'âge de l'éloignement des traditions anciennes et nationales. En 1942, après la conquête de Téhéran par les Alliés, les affaires administratives concernant la musique cessèrent presque totalement. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous vous parlerons encore plus de la musique en Iran. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.
Thank you.